Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
2018 touche à sa fin. Elle devrait figurer parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Une année qui a aussi vu repartir à la hausse les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a quelques jours, lors de la COP24, les conclusions du GIEC dont vous faites partie ont été retoquées par un certain nombre d'États. Est-ce que vous avez le moral ce matin ?
Bah, il faut être à la fois lucide et responsable. Lucide par rapport à la réalité du changement climatique dont on voit les effets partout, les effets aussi bien sur les milieux naturels que sur les activités humaines, avec en particulier une augmentation des vagues de chaleur, une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles dans de nombreuses régions. Et puis responsable parce que la cause du fait que le climat accumule de l'énergie, se réchauffe aussi bien à la surface des continents que dans les océans, eh bien ce sont nos émissions de gaz à effet de serre.
Être responsable, ne pas être dans l'apathie, on dirait que les Français en prennent conscience également. Il y a de l'espoir en ce moment en France, une pétition en ligne contre l'inaction climatique de l'État. Frôle, vous avez dû la voir, les 2 millions de signatures, c'est du jamais vu. Est-ce que vous soutenez cette initiative ?
Alors moi j'ai signé cette pétition qui demande à l'État français de tenir ses engagements par rapport à la baisse des rejets de gaz à effet de serre, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Et par ailleurs, ce que je note, c'est que partout où les citoyens ont l'occasion de s'exprimer, lors d'assemblées citoyennes, de débats participatifs, la question du réchauffement climatique, la question de la protection de l'environnement apparaît comme une priorité.
Alors, à l'origine de cette pétition dont vous parlez, il y a 4 associations qui ont décidé d'attaquer l'État en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Est-ce que les tribunaux, c'est notre dernière chance pour sauver la planète, Valérie Masson-Delmotte ?
Je pense qu'il y a des liens étroits entre les droits humains, la question du réchauffement climatique, et puis la justice, c'est aussi un des piliers de la démocratie.
Il faut en passer par là.
Cela fait partie des actions qui sont menées dans le monde. Ça a été par exemple le cas aux Pays-Bas. Il y a également une action de ce type qui est portée au niveau de la Cour européenne de justice. Une action similaire qui est également portée par rapport aux droits fondamentaux par des enfants américains. Puisque finalement le changement climatique c'est aussi quelque chose qui peut nous priver de droits. Par exemple le droit de poursuivre des activités agricoles. Sur certaines régions littorales, le droit de continuer à habiter des endroits qui sont menacés par la montée du niveau des mers. Donc la question du droit, elle est intimement liée à la question du changement climatique.
Et parfois, il faut contraindre les gens pour qu'ils acceptent de faire des efforts ?
Je pense qu'on a besoin d'un débat approfondi sur les solutions qui peuvent être déployées. C'est d'ailleurs une des conclusions du rapport du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement auquel vous faisiez référence. L'importance que la voix de chacun compte dans la manière dont les décisions sont prises et la manière dont on perçoit le fait que chacun doit jouer une part correspondant à ses moyens dans justement la lutte contre le réchauffement climatique.
Il y a quelques jours, c'est terminé la COP24, on en parlait aussi. 4 pays, parmi lesquels la Russie et les États-Unis, ont refusé d'approuver les conclusions du GIEC dont vous faites partie. C'est encore possible de ne pas croire à la catastrophe qui s'annonce ?
Alors c'est pas tout à fait exact. Donc ce rapport nous avait été demandé au moment de la COP21 par l'ensemble des pays. Et puis en session plénière du GIEC, l'ensemble des pays a décidé de préparer ce rapport à la fois sur les impacts d'un monde 1,5 degré plus chaud par rapport à un monde 2 degrés plus chaud, mais aussi sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. Et les gouvernements ont décidé de l'inscrire dans le contexte du développement durable et des efforts pour éradiquer la pauvreté. Les auteurs de ce rapport ont travaillé pendant 19 mois, ont passé en revue 6000 publications scientifiques, ont bénéficié de 42 000 commentaires de relecture, et le résumé pour décideurs a été approuvé ligne par ligne, mot par mot, par l'ensemble des pays, en session plénière du GIEC, de même que le rapport a été accepté. Au moment de la COP24, c'est la manière d'accueillir ce rapport qui a posé problème pour 4 pays, les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Mais par contre, les conclusions scientifiques de ce rapport, sur la base en fait des travaux scientifiques, ont été acceptés par tous les pays. C'est un rapport qui est, on va dire, stimulant et peut-être qui dérange.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'il y a de si dérangeant dans ce rapport ?
Mais il y a le fait que si on veut avoir une chance de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré à horizon 2030-2050, Il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent le plus vite possible, d'environ moitié entre maintenant et 2030, pour atteindre le net zéro à horizon 2050. Et pour comparaison, si on veut contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent d'environ 25% d'ici à 2030 et atteignent le net zéro à horizon 2070. Et il faut aussi faire baisser l'effet sur le climat des autres composés comme le méthane ou certaines particules qui réchauffent.
Alors justement, là, vous nous avez donné beaucoup de pourcentages, de chiffres. Pour rester sous la barre des 2 degrés, très concrètement, Valérie Masson-Delmotte, à quoi va-t-il falloir renoncer dans nos modes de vie au quotidien ?
Eh bien, c'est simple, c'est dans les pays riches, éviter tout ce qui est le gaspillage, investir dans l'efficacité énergétique, hein, par exemple l'isolation, la performance des logements. C'est des progrès qui sont à la fois technologiques, dans tous les secteurs d'activité, l'énergie, le transport, les bâtiments, les villes, mais aussi agir sur la demande, de sorte à ne pas avoir des systèmes énergétiques ou des systèmes alimentaires qui soient gigantesques et très difficiles à faire évoluer. Et en même temps, il s'agit également d'accompagner les pays en développement, de sorte qu'ils puissent avoir accès à une énergie qui soit propre et qui aujourd'hui est d'ailleurs compétitive. Donc c'est des efforts à mener dans tous les secteurs d'activité, mais c'est pas un retour à un mode de vie du passé. C'est au contraire investir dans l'innovation, dans la recherche, et une innovation qui n'est pas uniquement technologique, mais qui est aussi sociale. On n'a pas forcément besoin, par exemple, d'être propriétaire de tous les biens matériels. On a des technologies d'information qui permettent de les partager. Donc ça fait partie des solutions vis-à-vis du climat et qui sont aussi efficaces d'un point de vue des dépenses individuelles.
Et on peut trouver du bonheur et être heureux dans cette simplicité de vivre que vous suggérez ?
Je ne suis pas sûre que le superflu ce soit le nécessaire pour le bonheur. Par contre, les inégalités sont un facteur extrêmement important de mal-être. Et donc, ce qu'on montre également, c'est que la question du réchauffement climatique, elle est intimement liée aux efforts que l'on peut faire pour permettre à tous de vivre dignement, d'améliorer le bien-être de tous. C'est dans ce sens-là qu'on entend le terme de développement soutenable.
Et alors justement, si on n'arrive pas à soutenir ce développement, est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide tableau de ce que pourrait être la Terre avec plus de 2, voire 3 degrés de réchauffement d'ici 2100 ?
C'est la trajectoire sur laquelle on est compte tenu du faible niveau d'ambition des différents pays, un réchauffement de l'ordre de 3 degrés d'ici à 2100. Quelques ordres de grandeur. Les plus gros changements climatiques passés, c'est entre une période glaciaire et une période douce, c'est à peu près 5 degrés, ça s'est produit au rythme d'environ 1 degré par 1000 ans au moment le plus rapide. Donc on parle d'un changement vers le chaud sans précédent à l'échelle de l'humanité et très rapide. Chaque demi-degré compte, chaque demi-degré fait un monde très différent. Et même entre maintenant et un monde 1,5 degré plus chaud, il y aura des effets très visibles en Arctique, il y aura des effets très visibles, par exemple, sur le pourtour méditerranéen par rapport à une baisse des précipitations, des effets très visibles dans les régions tropicales, avec une augmentation très forte de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur. Donc pour chaque demi-degré en plus, ce sont des conséquences potentiellement très graves. Le risque de perte de certains écosystèmes comme les récifs de coraux tropicaux ou les écosystèmes qui dépendent de la banquise. Dans les régions tropicales, des enjeux majeurs en termes de sécurité alimentaire pour la production de céréales clés comme le maïs, le blé, le riz ou le sorgho, s'il n'y a pas des efforts importants d'adaptation. Dans les régions qui sont semi-arides, ce sont des enjeux extrêmement importants pour la sécurité en eau. Donc ce sont des enjeux qui sont vitaux dans de nombreuses régions du monde.
Alors pour ne pas en arriver là et préserver chaque demi-degré, hein, comme vous l'avez dit, il y a aussi l'éducation. Et justement, Valérie Masson-Delmotte, dans une tribune publiée la semaine dernière dans Mediapart, vous demandez, avec d'autres scientifiques, la création d'un enseignement au changement climatique pour les lycéens. De quoi s'agit-il ?
Mais j'ai été extrêmement surprise de constater que dans les nouveaux programmes de lycée, la question de l'enseignement du changement climatique en seconde et en première, elle est quasiment absente. Elle est vraiment réduite à la portion congrue. J'ai également regardé dans les nouveaux programmes de collège, de la sixième à la troisième, et c'est quasiment absent. J'ai interrogé plusieurs collégiens qui sont en troisième, puisque c'est le moment des stages justement de ces collégiens, et ils n'ont rien appris sur le réchauffement climatique, ses causes, ses conséquences, la manière manière d'y répondre. Moi, je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il faut donner des clés aux jeunes générations pour comprendre le lien entre nos activités, les émissions de gaz à effet de serre, la cause du réchauffement, les conséquences et la manière d'y répondre, parce qu'ils vont être porteurs de solutions à la fois pour s'adapter à un climat qui change et de solutions pour construire un développement qui améliore le bien-être de tous, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Et si on n'apprend pas ça quand on est jeune, c'est plus difficile à apprendre et c'est peut-être restreint à ceux qui ont la chance de faire des études supérieures, alors que c'est un enjeu qui concerne chacun d'entre nous.
Est-ce que vous avez écrit au ministre de l'Éducation nationale pour lui suggérer votre idée ?
Oui, j'ai écrit au Conseil supérieur des programmes et j'ai écrit au ministre de l'Éducation qui ne m'a pas répondu.
Ah ben, on ne perd pas espoir tout de même, même si l'urgence est là, on l'a bien entendu. Est-ce que, en quelques secondes avant de se quitter, vous avez quand même une bonne nouvelle à nous donner sur l'évolution de notre planète ?
Malheureusement, en fait, l'évolution qu'on observe depuis une trentaine d'années, c'est celle qui avait été anticipée à l'aide des premiers outils qui servent à représenter le climat, les modèles de climat. On est sur la trajectoire qui avait été anticipée. En même temps, ces connaissances, elles sont importantes parce qu'elles vont permettre d'anticiper les trajectoires à venir dans les décennies suivantes. Et ces connaissances, elles sont essentielles.
Merci.
Pour justement s'adapter.
Merci infiniment, Valérie Masson-Delmotte, d'avoir répondu à nos questions.